La sobriété heureuse. Oui, je sais que c'est la grande vogue actuelle, d'avoir une certaine économie, d'un comportement économique au niveau de l'eau, au niveau des déchets, etc.
Bonjour à toutes et à tous, quel bonheur cet après-midi de vous accueillir dans un numéro de Zoom Zoom Zen dont le thème me parle particulièrement. Et je dirais même, sans fausse modestie, que ce terme non seulement il me parle, mais je l'illustre mieux que quiconque, la sobriété heureuse. Oui, à rebours de la plupart de mes contemporains, à commencer par mes collègues qui semblent vivre pour consommer, achetant de nouveaux habits chaque semaine et claquant tout leur argent en restaurants fastueux et voyages exotiques, j'incarne au contraire cette sobriété heureuse, se contenter de peu, chérir les moments simples, les échanges humains, plutôt que courir après les biens matériels. Telle est ma philosophie, et tant pis si ça dérange. Mon collègue Mathieu Vidard, qui présente La Terre au Carré, me disait l'autre jour, Mathieu, tu es le visage de la décroissance. Assume-le. Alors oui, j'assume.
Quelle indécence.
J'assume cette vie sans chichi, même si ça a fait l'objet cet été de houleuses disputes avec Madame Noël, nous étions à Saint-Tropez, l'autre Katmandou, et comme toute personne gangrénée par le capitalisme, elle m'a dit, mais enfin Mathieu, comment ça se fait qu'on soit pas en première ligne sur la plage privée? Là, j'ai pris sur moi, j'ai posé mon livre de Mathieu Ricard, plaidoyer pour l'altruisme, un concept que je vous expliquerai plus tard dans l'émission Manon. Je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui dis, chérie, j'ai pas pris les transats en première ligne parce qu'on s'en fout en fait. L'important, c'est qu'on soit ensemble. Bon, elle m'a quitté. Aujourd'hui, je dors sur le canapé chez Cyril Lacarrière, qui m'héberge gracieusement. Je dois juste jouer Titanic à la flûte à bec pendant qu'il dîne avec madame. Mais sinon, je suis logé, nourri, que demander de plus? Manger à table et pas même le sol, peut-être. En tout cas, cet après-midi, on va zoomer sur la sobriété heureuse. Comment l'atteindre? Comment se désintoxiquer de nos réflexes consuméristes qui sont hélas bien ancrés? Moi je sais, mais vous, je sens que vous avez besoin d'un sérieux coup de main. Zoom Zoom Zen, c'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Et bonjour Mathieu Ricard.
Bonjour cher ami, bah dites donc, c'est parti là, sur les chapeaux de roue.
Vous avez du travail avec moi. On est très heureux de vous recevoir dans Zoom Zoom cet après-midi. Vous êtes moine bouddhiste, interprète du Dalai Lama depuis 1989. Vous avez plusieurs actus. Alors d'abord un livre de photos absolument magnifique. Alors évidemment c'est pas très radiophonique, il faut nous regarder en vidéo. Ça s'appelle Lumière, ça vient de paraître aux éditions Alary. Une expo aussi du 10 octobre au 15 novembre à la Galerie Françoise Livinec à Paris. Et puis une conférence au Grand Rex vendredi prochain, donc le 3 octobre. Vous avez pas fait le voyage pour rien. Vous revenez d'où d'ailleurs?
Je viens de Katmandou.
C'est là où vous vivez l'essentiel.
La majorité du temps, oui.
On reviendra.
En dehors de Katmandou, dans les montagnes bien tranquilles.
Dans les montagnes bien tranquilles. Vous nous disiez que votre ermitage était aussi petit que ce studio?
Oui, alors j'ai quelques anecdotes à propos des petites histoires pour la sobriété heureuse. Donc mon ermitage fait à peu près 3 mètres sur 3, mais j'ai gratuitement devant moi 200 km d'Himalaya, dont 3 pics de 8000 mètres.
Ça comporte
un jour, donc j'ai un petit balcon, et un jour je me suis dit, si une fée arrive et me dit, tu peux faire 3 vœux, mais sur le plan matériel, pas atteindre à l'éveil, avoir une compassion illimitée pour tous les êtres, que j'essaie de cultiver tant bien que mal. Et donc j'ai réfléchi, et j'ai éclaté de rire. Parce que je ne voyais absolument pas ce que je pourrais souhaiter sur le plan matériel. Une chaîne haute fidélité, la plupart du temps, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas la place. Donc rien du tout. Une Ferrari en pente dans l'Himalaya, ça marche pas.
Mais non, c'est pas 4x4 une Ferrari.
Les piscines en pente non plus. Donc il n'y avait vraiment rien. Donc je me suis dit, je vais réciter mon mantra favori. J'ai besoin de rien. Et au bout de 10 fois, on se sent tellement bien.
Vous étiez vraiment l'invité idéal pour cette émission. On va évoquer cette sobriété heureuse qui nous intéresse. Juste le temps de vous présenter deux journalistes que vous aurez bien du mal à convaincre, des enfants perdus du capitalisme. Oh. Manon Mariani, Quentin Lui, bonjour.
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 Bonjour à
Mais
tous.
Il fait déjà du bien, notre invité. Ça nous a apaisé directement.
Je vais répéter cette phrase tous les jours.
Je me sens meilleur de rencontrer Mathieu Ricard. Ouais. Je ne sais pas si ça durera. À vos côtés, Mathieu, il y a dans ce concept de sobriété heureuse deux mots qui lui font horreur. Sobriété et heureuse. Sachant qu'il y a sur cette planète qu'une seule personne pour estimer que Manon est joyeuse et gentille, et d'ailleurs c'est pas une personne, c'est ChatGPT.
Il y a mes parents aussi.
C'est vrai, mais vos parents aussi.
Je fais illusion.
Plus mitigé.
On leur demandera quand même personnellement. Oui. Manon, dans votre pièce jointe aujourd'hui.
Aujourd'hui, un portrait de celui pour lequel vous êtes l'interprète français, Mathieu Ricard, l'homme le plus spirituel du monde, le Dalai Lama.
Et vous, pensez-vous pouvoir être heureux en consommant moins, en vous détachant des choses matérielles? Quentin, le plus humain de la bande, est parti à votre rencontre dans les rues de Paris afin de savoir ce que vous pensiez de ce concept de sobriété heureuse. Alors Quentin, est-ce que les gens sont prêts?
Alors la notion est bien entré dans le langage commun, mais on m'a quand même pas mal parlé d'alcool, avec un invité qui s'appelle Ricard. Oui. En même temps, ça peut se comprendre.
Évidemment.
On comprend qu'être sobre peut se trouver dans notre mode de consommation. Et qu'est-ce que ça vous inspire? On écoute, je dirais, la voix de la rue, Mathieu. Avant 16h30.
De bien grandes phrases pour parler d'un micro-trottoir. Vers 16h30, un exemple concret valant mieux que tous les discours. Nous partirons dans le Zoom Zoom Test à la rencontre de ces hommes et ces femmes qui ont osé la vie simple. Nous partirons au Népal, dans le Larzac et même dans une tiny house d'Ivry-sur-Seine, puisque c'est là que vit notre réalisateur décroissant, végétalien et encore d'autres trucs qui donnent des vapeurs à Cyril, Ghislain Fontana. Juste avant 17h, il sera temps d'affronter courageusement notre bilan de la semaine. Vous verrez, Mathieu Ricard, François Rollin, notre professeur, est un peu moins dans la bienveillance que vous. Après 17h, surtout restez à l'écoute puisqu'on basculera en mode zoom zoom back, direction l'an de grâce 1992, la Dream Team de Michael Jordan éblouissait le monde au JO de Barcelone. Le légendaire commentateur Georges Eddy nous racontera cette épopée qui a rendu le basket si populaire dans le monde. Mais d'abord, on zoome aujourd'hui sur ce concept de sobriété heureuse, vivre mieux avec moins, au fond, c'est ça. Mathieu Ricard, la sobriété dans votre quotidien, vous l'appliquez depuis combien de temps? Depuis combien de temps vous vivez comme ça, chichement, j'ai envie de dire.
Bah alors, j'ai quitté, donc, j'étais chercheur à l'Institut Pasteur, et après ma thèse, j'ai dit à mon patron François Jacob, qui a découvert l'ARN messager, entre-temps, donc je savais un petit peu de quoi il en retournait, je lui ai dit, bah, écoutez, je vais faire mon postdoc dans l'Himalaya. Alors, très innocemment, je suis parti avec 6 mois de salaire en poche pour le restant de mes jours. Et mon père m'a dit, mais de quoi tu vas vivre? Je lui ai dit, bah, je sais pas, on verra bien. Et ça s'est très bien passé. Donc, à Darjeeling, où j'étais dans les années 70, on pouvait vivre avec l'équivalent de 50 euros par mois d'aujourd'hui, la façon dont je vivais. Mais j'étais tellement content. À l'époque, j'avais un petit ermitage. Je suis resté 7 ans avec un maître spirituel qui s'appelait Kangyo Rinpoche. J'avais pas de chauffage, pas d'électricité, un seau d'eau sur le balcon. Mais c'était pour moi le paradis. Pourquoi? Parce que j'étais exactement là où je voulais, avec qui je voulais. Et c'était des années extrêmement formatrices.
Mais pour bien comprendre, pour ceux qui ne vous connaissent pas, Mathieu Ricard, il y a eu une rupture dans votre vie à un moment, enfin très jeune, donc du coup, où vous étiez consommateur, vous étiez un peu comme nous, ou très tôt, vous avez eu cette idée que vous cherchiez plus la spiritualité, que les biens matériels n'avaient aucune importance. C'est quelque chose qui a été une révélation ou plutôt une...
Disons, j'étais plutôt pour les valeurs qu'on pourrait appeler intrinsèques, c'est-à-dire d'être dans la nature, avec des amis, faire de la voile, marcher, faire de la photo. Et la consommation, ça m'a jamais tenté. Et puis récemment, par exemple, je me suis dit, j'étais à Bangkok en transit entre le Tibet et retourné au Népal. Je me suis dit, je vais quand même aller voir. Donc j'ai fait tout un supermarché, du premier au cinquième étage, tous les rayons. J'ai regardé, mais je suis redescendu. Je me suis dit, c'est bête, j'arrive, il n'y a rien qui me tente d'acheter. Donc heureusement que j'ai cette tendance-là. Je n'ai pas bu un verre d'alcool de ma vie. Bon, c'est naturel, je suis peut-être tombé dedans comme dans la potion magique quand j'étais petit. Mais en tout cas, ça me fait beaucoup de bien. Parce que c'est vrai qu'on sait, il y a des études qui ont été faites sur les malheurs du consumérisme. Un anthropologue qui s'appelle Tim Kasser, qui a montré que les gens qui accordaient principalement des valeurs à l'amitié, aux vraies amitiés, aux gens à qui on peut faire confiance, à qui quand on a le besoin, on peut s'adresser, qui aiment justement, qui pensent aux grands problèmes comme l'environnement, ils sont beaucoup plus satisfaits de leur vie que ceux qui cultivent le statut, qui ont des bagnoles qui impressionnent le voisin, des vêtements qu'on change tout le temps. Ils ont beaucoup de relations, mais pas d'amis sincères. Et finalement, ces gens-là recherchent un bonheur qu'on appelle hédonique. Et on connaît très bien ce qu'on appelle le hedonic treadmill, c'est-à-dire que ça marche jamais. Et donc finalement, c'est ça qui est important. La société de consommation n'apportera jamais une satisfaction véritable.
C'est un coup dur pour nous, mais un message important pour nos auditeurs. Un jour, dans une chambre d'hôtel de Las Vegas, alors qu'il finissait un bucket de Wings KFC arrosé d'un Jeroboam de Dr Pepper pour fêter les 12 000 dollars qu'il venait de gagner au Blackjack, tout en s'upgradant en business sur le site de Delta Airlines, Cyril Lacarrière s'est interrogé sur cette notion de sobriété heureuse. Et puis, la sonnette de la chambre a résonné, c'était Brenda, Cassie et Vivi, des amis de passage. Alors il a arrêté d'y penser. Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Mathieu Noël, bonjour à L3.
Alors Cyril, là pour l'émission, vous y avez repensé. Vous avez fait un effort. Racontez-nous la sobriété heureuse, d'où ça sort.
Imaginez, on vous demande de baisser le chauffage à 19 degrés, de débrancher votre électroménager que vous n'utilisez pas tous les jours, d'éteindre votre box internet la nuit, de limiter vos voyages en avion, mais pas pour économiser des sous, pour préserver la planète. Oui. C'est ce qu'on appelle un devoir de sobriété, ce que les Français ont découvert avec la guerre en Ukraine. Ce n'était pas la sobriété heureuse, pour certains d'ailleurs, elle était même subie, cette sobriété. Et bien avant, en fait, cette guerre aux frontières de l'Europe.
Et ce mot de sobriété, il vient d'où, Cyril ?
En fait, il renvoie à la tempérance. Dans la philosophie grecque, la sophrosyne désignait ce qui permet de rester maître de soi, d'être sage et modéré. Dans la République, Platon écrit que la sophrosyne contrôle le penchant pour la concupiscence, à savoir s'adonner à tous nos désirs. Et puis, au fil des siècles, la notion de sobriété entre dans le registre moral et religieux. Il en faudra d'autres encore pour que la sobriété prenne un sens politique. C'est dans les années 70, au moment du premier choc pétrolier, qu'on commence à parler du besoin de sobriété, que la sobriété prend une dimension politique. Le philosophe autrichien Ivan Illich parle à ce moment-là de société conviviale. Il explique que la sobriété est une manière de s'opposer à la marchandisation du monde, à la déshumanisation de la vie. Et puis, la sobriété est aussi devenue un sujet culturel. On en parle sur les réseaux sociaux avec les hashtags Slow Life ou Degrowth, avec cette idée qu'en faisant moins, qu'en ayant moins, on peut vivre mieux. Alors, d'où ça sort la sobriété heureuse? Et bien de là, et ce n'est que le début de notre histoire.
Merci Cyril. Alors, dans Zoom Zoom Zen, on essaie d'analyser les mots dans l'air du temps, les expressions dans l'air du temps. C'est vrai que sobriété heureuse, c'est un mot qui revient beaucoup, mais ça n'a rien de neuf, parce que c'est central dans le bouddhisme, mais dans les traditions, dans la philosophie grecque, on le retrouve aussi.
Alors, dans le bouddhisme, on dit par exemple, si vous savez vous contenter de ce qui est nécessaire et utile pour avoir une bonne vie, vous avez un trésor dans le creux de votre main. Et on dit, si en ayant un, vous voulez deux, vous ouvrez la porte aux démons. Donc l'idée, c'est de faire, comme vous l'avez dit, de faire mieux avec moins au lieu de pire avec plus. Mmh. Et la raison est très simple, nous n'avons pas trois planètes, on a 6-7 ans pour contrôler cette course effrénée qui mène à cette augmentation de CO2, on sait tout ce qui se passe. On sait qu'il y a à peu près 15% de chance pour qu'il y ait 4 degrés de réchauffement climatique. 15%, ça paraît peu, mais si vous disiez qu'un avion sur 6 que vous prenez va s'écraser, vous ne prendrez pas l'avion. Et ça voudrait dire la population humaine réduite à 1 milliard, non pas à cause parce qu'ils deviennent tous moines ou nonnes ou au contrôle des naissances, mais parce que les famines et les guerres. Donc c'est le problème, c'est que l'évolution nous a équipés pour réagir à des dangers immédiats. Si on dit le studio prend feu, on se tire. Si on dit il prendra feu dans 30 ans, on dit ben on verra bien. Donc c'est ça le problème. Le futur ne fait pas mal, du moins pas encore.
Et l'autre problème, c'est que quand on est habitué depuis des années, depuis même plusieurs générations maintenant, à voyager pour le plaisir, à consommer, à se montrer sur les réseaux sociaux, acheter une nouvelle bagnole ou des vêtements dont on n'a pas forcément, même pas du tout besoin en fait, comment on fait pour perdre ces habitudes? Comment on fait pour désapprendre la consommation?
Mais c'est de trouver son plaisir. Moi, j'ai une paire de chaussures, je la change tous les 2-3 ans, ça va très bien. J'ai des petites sandales aussi, mais en gros, j'ai une paire de chaussures. Mais qu'est-ce que j'en ferais de 5 paires? Je me promène partout, je prendrais de la place dans mon petit sac. Donc, je veux dire, il faut comprendre que ce n'est pas ça qui vous apporte une véritable satisfaction dans l'existence. C'est l'amitié, c'est d'être dans des endroits où vous êtes émerveillé par la beauté des choses, c'est croiser le regard d'un enfant innocent, d'un vieillard édenté qui vous sourit. C'est ça qui fait la beauté de la vie, c'est pas d'avoir des trucs encore et encore et encore.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Qu'est-ce que la sobriété heureuse et surtout peut-on l'atteindre en vivant au cœur d'une société capitaliste où tout nous pousse tout le temps à l'achat? Pour répondre à cette épineuse question, on a la chance d'être cet après-midi avec Mathieu Ricard. Mathieu, je relisais votre livre sorti il y a quelques années, Carnet d'un moine errant, dans lequel vous racontez votre vie sans attache matérielle ou géographique. Peut-être pour qu'on vous connaisse mieux, en quoi ça consiste cette vie sans attache? On sait où vous vivez, mais vous n'avez pas de salaire, par exemple? Comment ça fonctionne?
Bah, écoutez, moine bouddhiste. J'en ai eu à l'Institut Pasteur pendant 6 ans. Les 6 derniers mois de salaire, ça m'a permis de vivre 7 ans à Darjeeling tranquille. Et par la suite, je vivais tranquillement auprès de maîtres spirituels dans un monastère. On me nourrissait très gentiment. Et puis à un moment donné, 25 ans plus tard, j'ai fait un livre avec mon père, Jean-François Revel, moine et philosophe. Quand j'ai vu le contrat, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ça? J'en ai pas besoin, je vais avoir des emmerdes avec les impôts. Donc j'ai tout de suite vu mon cher éditrice Nicole Latte, j'ai dit, trouve un moyen. Donc j'ai commencé par donner l'intégralité de mes droits d'auteur à la Fondation de France et ensuite à les rediriger. Et finalement, nous avons fondé Karuna Sechen, une organisation dans laquelle je donne 100% de mes revenus. J'ai voulu m'inscrire au Parti communiste, ils n'ont pas voulu me prendre parce que 100% c'est trop. Et donc, depuis ces 20 ans, j'ai donné l'intégralité de mes droits d'auteur. Donc je vis, j'ai un tout petit peu l'héritage de mon père, ce qui m'a permis de m'occuper de ma chère mère qui a vécu jusqu'à 100 ans. Mais sinon, je suis très bien comme ça. J'ai suffisamment pour vivre au Népal et j'aurais eu aucun besoin de cet argent. Et c'est beaucoup mieux qu'on puisse aider 500 000 personnes par an pour l'extrême pauvreté, pour l'éducation, la sécurité alimentaire, l'autonomisation des femmes. Donc je suis tellement content d'avoir pu fonder Karuna Sechen qui cette année fête ses 25 ans.
Bon anniversaire, Manon.
Aujourd'hui, Mathieu Ricard, quand même, pour se détacher de tout bien matériel, ça va plus loin. Ça veut dire qu'il faut qu'on change totalement notre conception du monde.
Mais vous savez, quand on dit se détacher, on a l'impression qu'on va se priver, ce qui est vraiment bon dans l'existence, plus manger de glace à la fraise. Ça veut dire, est-ce qu'un oiseau qui vole hors de sa cage se détache de sa cage? Mais non, il se libère de choses complètement inutiles qui vous empoisonnent l'existence. Donc ça serait absurde de renoncer à des choses qui sont vraiment bonnes dans l'existence, qui nous apportent de la joie profonde. Justement, l'amitié, la beauté de la nature, faire des choses pour les autres.
Mais si c'est acheter une voiture qui nous apporte de la joie, comment on fait?
Ben, moi, j'étais obligé d'avoir une voiture parce que je m'occupais de ma mère en Dordogne. J'ai réussi à en avoir une pour 700 euros. Bon, elle a 25 ans. Elle marche un peu toujours. Je m'en sers presque plus. Mais sinon, je n'ai jamais eu de voiture de ma vie. Je m'en porte très bien.
Mais Mathieu Ricard, quand on vous écoute, quand vous nous parlez de votre chambre avec la vue sur l'Himalaya, on a presque tous envie de se dire, bah oui, moi aussi, pourquoi pas. Mais le problème, il est là. On ne pourrait pas être. On pourrait pas tous aller vivre comme des moines.
On me dit, vous êtes privilégié. Bah, attendez, quand même. Pour certaines personnes, c'est un peu du culot de quitter à 27 ans avec trois sous en poche, je l'ai choisi. Donc, évidemment qu'on ne peut pas tous vivre dans un petit hermitage dans l'Himalaya, encore que c'est un choix que j'ai fait et c'est faisable, hein, personne ne m'en aurait empêché. Mais ce qu'on peut faire par contre, c'est ne pas, c'est éviter. Vous savez qu'un Américain moyen émet 250 fois plus de CO2 qu'un Zambien, un Qatari 2000 fois plus qu'un Afghan. C'est à cause de ça qu'il y a ce problème de réchauffement climatique. Ce n'est pas les nations pauvres en Afrique et ailleurs qui causent le réchauffement climatique. C'est les pays riches qui consomment 200 fois plus de façon totalement déraisonnable et qui sont en train de détruire la planète. Les générations suivantes diront « Vous saviez et vous n'avez rien fait ». On est responsable d'immenses souffrances que vont subir les générations à venir.
Bouddha préconisait le respect du vivant sous toutes ses formes, de l'homme au plus minuscule insecte. Alors, l'autre jour, quand Quentin est revenu au bureau avec du sang sur ses dispendieuses paraboutes à 500 balles, un frisson m'a parcouru. Que penserait Bouddha d'un garçon capable d'écraser un moineau et de s'éloigner ensuite les mains dans les poches en le laissant agoniser sur le trottoir? Parce que c'est ce que vous avez fait, Quentin. Vous nous l'avez raconté. Ouais. Vous avez honte, mais c'est ce qui s'est passé.
Mais c'était un accident, j'ai ôté la vie à un petit moineau.
Oui, c'est terrible, c'est terrible. Il s'en est voulu pendant plusieurs semaines.
Quelques minutes,
oui. Mais oui, bien sûr. Quentin, pour vous rattraper de vos exactions, offrez-nous un beau micro-trottoir, comme vous en avez le secret.
Il pleut dans Paris, un ciel couvert mais qui laisse quand même une bonne lumière, une sorte de grisaille qui éblouit. Je sors le micro France Inter de ma poche quand je vois ce monsieur qui découvre sur l'écran de mon portable le thème du jour de Zoom Zoom Zen.
La sobriété heureuse. Pas avoir un iPhone peut-être.
Avoir un iPhone?
Non, ne pas avoir.
Ah.
Tu vois, je vois un iPhone là. Sobriété.
Bah c'est le mien. Vous avez pas d'iPhone vous?
Non.
Vous avez quoi?
Un vieux machin qui marche un petit peu mais pas à jour quoi. Mais ça marche.
Oh, un point pour Eric, je serais mal placé à donner des leçons de sobriété avec mon gros smartphone dernier cri. Avec sa veste en velours côtelé, chemise en jean, cheveux poivre et sel et ses lunettes vintage, ça lui parle, notre sujet.
Ouais, parce qu'on peut toujours réutiliser les choses. On veut toujours avoir le dernier truc à la mode, la dernière fringue, mais en fait, on réutilise. Nos parents ont réutilisé, moi aussi j'essaye de réutiliser le plus possible. Par exemple, des nouvelles fringues, moi j'achète que dans les friperies, tu vois.
Ah ok.
Ouais.
C'est joli ça.
Ouais, ça va.
Vous allez dans les fripes?
Ouais, que les fripes. Ma fille aussi, ma femme aussi, ça y est, c'est fini. On va plus dans les magasins, je dirais, de marque ou des choses comme ça. Quoi.
Alors, est-ce qu'en famille, il trouve un côté agréable à moins consommer ou à consommer mieux? Est-ce qu'il est heureux de ça?
Est-ce qu'on est plus heureux? Je sais pas, qu'on fait un effort quand même, des fois. C'est pas inné, parce qu'on nous tente tellement qu'on doit faire quand même un effort pour lutter contre la tentation. C'est une époque dure. Pour nos ados, c'est super dur parce qu'ils sont toujours alpagués. Ah, je veux ça, je veux le dernier truc mieux parce que c'est sur WhatsApp, c'est sur TikTok, un machin truc. Tu vois. Ils sont happés tout le temps par la consommation. Donc sobriété, ouais.
Le temps que je salue Eric, il y a cette petite dame que je bouscule sans faire exprès.
Bonjour monsieur.
Quel est votre prénom?
Marie-Françoise.
Vous avez quel âge?
75 ans. Je n'habite pas Paris, j'habite Dijon. Je suis venue une semaine à Paris pour voir certains musées et revoir des amis.
La septuagénaire découvre la notion qui nous intéresse aujourd'hui.
La sobriété heureuse. Oui, je sais que c'est la grande vogue actuelle. On parle d'avoir une certaine économie, d'un comportement économique au niveau de l'eau, au niveau des déchets, etc.
Vous comprenez, vous, Marie-Françoise, vous le faites?
J'essaie, oui. Ma vie n'a pas tellement été de cette façon. Je ne sais pas si on a été sobre,
Comment ?
Vous, les baby-boomers ?
Je sais pas, oui.
Ah, c'est pas ce qui a caractérisé votre génération ?
Oui, et non.
Puis vous en avez brûlé, hein, du gasoil. Hein.
C'est possible, oui.
c'est possible. Elle me parle des générations plus anciennes, de la guerre, de ses grands-parents, de sa maman. Est-ce qu'il y avait une forme de sobriété ?
Oh ben, sobriété certainement, mais pas heureuse, parce que ma mère était d'un milieu paysan, elle était très malheureuse, et les gens qui l'élevaient étaient malheureux.
Donc c'était pas la sobriété heureuse.
Ah non, pas du tout.
Elle je était crois subie. Que
je, oui, puis c'était pas de la sobriété, c'était de comment dirais-je du manque, quoi, de la misère. C'était de la misère. C'était de la misère. Hein. Est-ce que vous c'est quand même un, disons un petit peu. Non, je dirais pas que c'est paradoxal, sobriété heureuse, mais c'est nouveau, disons. C'est un terme actuel que l'on utilise.
Ma dernière rencontre, c'est cette jeune femme. Attachée caisse, le cordon en bandoulière avec au bout son téléphone. Elle bosse dans la finance. Je demande à Élodie le regard qu'elle porte sur notre monde et est-ce qu'on veut se diriger vers une forme de décroissance ?
Je pense qu'on est dans une spirale où on essaie toujours de gagner plus et on a d'atteindre un but qu'on n'arrive pas à atteindre parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut atteindre. Donc on n'arrive pas à être sobre, on n'arrive pas à être simple. Voilà. Donc on a une décroissance du bonheur, pas de l'argent.
Donc on est dans la consommation malheureuse.
Exactement.
Oui, ce qui est donc tout l'inverse. Mais est-ce qu'elle a tort après tout, finalement ? C'est une question qu'on peut se poser. Je lui parle de ses vies en communauté, vous savez, sur un bout de terrain, en autarcie.
J'aimerais bien, mais il faut pouvoir le faire. Il faut pouvoir changer nos vies.
Vous pourriez, vous, aller dans un champ, en communauté
Non, j'ai trop de contraintes ici.
Avoir votre propre potager ?
Non.
Produire sa propre énergie ?
J'aimerais, mais entre ce qu'on peut faire et ce qu'on a envie de faire... Je sais pas si on va aller vers ça. Je pense que beaucoup de gens aimeraient aller vers ça. Peu ont les moyens de le faire. Voilà.
Oui, c'est un sport de riche.
C'est ça. Bah ouais, tout plaquer pour vivre plus simplement, faut pouvoir le faire aussi.
Et c'est vrai. Vivre plus sobre, c'est déjà un luxe. Derrière l'image idyllique du potager partagé et de la cabane autonome, il y a une réalité. Avoir du temps, un peu d'argent de côté aussi, une sécurité qui permet de se dire « je ralentis ». Rien que de se poser la question de la sobriété, c'est déjà une forme de privilège. La sobriété heureuse n'est sans doute accessible qu'à ceux qui en ont les moyens.
Merci Quentin, j'aimerais rebondir sur votre conclusion. Est-ce que la sobriété heureuse, c'est un truc de riche ? C'est-à-dire, est-ce que sinon c'est de la sobriété subie ? Comment faire pour qu'elle soit heureuse et
en
pas
fait,
subie ?
Il y a un mot qui est peut-être moins provoquant, c'est la simplicité heureuse. Et David-Henri Thoreau, qui était un grand naturaliste, disait « simplifier, simplifier, simplifier ». Et j'ai un commentaire bouddhiste, simplifiez vos actions, donc au lieu de courir à droite, à gauche, à faire toutes sortes de choses, faire ce qui compte vraiment dans l'existence, simplifiez vos paroles, on est là avec beaucoup de blabla, moi je suis un peu le blabla moine, il y a le blabla car, moi je suis le blabla moine, et simplifiez vos pensées, c'est d'espoir, de crainte, qu'est-ce qui va se passer, pourquoi il m'a dit ça, pourquoi moi, pourquoi pas moi. Donc c'est vrai que puis ce jeune homme qui disait qu'il souffrait de ne pas avoir tout ce qu'il voulait, ben, c'est pas qu'il souffrait de ne pas avoir tout ce qu'il voulait, il souffre d'avoir des choses dont il n'a pas vraiment besoin et qui sont sans fin. C'est comme une ligne d'horizon, plus vous avancez, plus vous reculez, plus vous avez, plus vous voulez davantage. Donc la simplicité, c'est de savoir jouir du moment présent dans un bel endroit avec des amis et ne pas essayer constamment de se dire qu'en ayant plus... L'idée est qu'on va être parfaitement... On voit des gens extrêmement riches, célèbres, beaux, etc. Et on apprend qu'ils sont très déprimés. On se dit, qu'est-ce qui ne va pas avec ce type-là ? Moi, si j'avais tout ça, je serais heureux. Ben, c'est ça l'illusion.
Mais quand vous le dites, ça paraît si simple.
Et évident,
et on l'a entendu dans le micro-trottoir, je ne sais plus, une jeune femme disait, il y a quand même une différence entre ce qu'on peut faire et ce qu'on a envie de faire.
Mais c'est plutôt une attitude. Il y avait un roi au moment du Bouddha, et le roi disait, renonce à ton royaume. Et le roi dit, pourquoi ? Je ne suis pas attaché à mon royaume. Donc si on peut être attaché à des tout petites choses, désespérément, et souffrir de l'idée de les perdre. Mais si un roi n'est pas attaché à sa royaume ou à sa fortune et qu'il distribue, qu'il s'occupe de ses sujets, un roi idéal, disons.
Oui, parce qu'il y en a peu.
Il n'y a aucun problème, puisqu'il en fait bon usage. C'est tous ces centaines de milliards. Qu'est-ce que vous avez ? Qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire pour vous-même avec 2 milliards que vous ne pouvez pas faire avec 1 ? On peut faire beaucoup pour les autres. Moi, je vous assure que si j'avais 50 milliards, j'aurais tout de suite quoi faire.
Mais quand même, il y a cette forme de... Comment on transmet ce genre de valeur quand on a un ado à la maison, par exemple ? Ce monsieur disait, ils sont constamment tentés. Il parle de la tentation des pubs. Aujourd'hui, on ouvre son smartphone, on a des pubs ciblées qui répondent exactement aux produits qui correspondent à la cible que nous sommes. Vous voyez bien qu'on est dans un monde qui nous pousse.
C'est l'ensemble du système qui sollicite ça, avec toutes ces pubs, avec tous ces réseaux sociaux ou antisociaux.
Qu'est-ce qu'on fait,
on est obligé de se mettre en marche.
Vous n'avez qu'à lire la fabrique du crétin digital, c'est un très excellent livre qui montre à quel point ça trouble la qualité des relations humaines. Les gens n'ont plus de vrai. Si vous avez 500, je ne sais pas quoi, copains sur Facebook, ce n'est pas des amis. Vous parlez de vous, c'est une fenêtre au narcissisme. Il y a une étude qui a montré que si vous passez une demi-heure à mettre à jour votre page Facebook par rapport à une demi-heure à chercher des localisations sur Google Maps, et vous passez le test du narcissisme à la fin, il y a un questionnaire, il est nettement augmenté. Parce que vous, en fait, sur votre page Facebook, vous parlez de vous, moi, du matin au soir. Ça ne rend pas heureux, bien sûr.
Mais il y a quand même, je vous écoute, vous parlez de la position du sage qui a fait tout ce chemin. Comment on fait, je pense, Quentin disait, quand on a un ado, quelqu'un qui rentre dans cette vie, qui découvre le monde tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire hyper consumériste, tout nous pousse à consommer. Qu'est-ce qu'on lui dit pour ne pas passer pour un vieux con et lui faire comprendre qu'effectivement, ça ne sert à rien de vouloir le dernier iPhone parce qu'il y aura toujours un iPhone 17, et puis un 18, et puis un 19, et puis un 20, et qu'on n'en sortira jamais.
Je ne sais pas, moi, emmenez-le au bord de la mer, faut le promener en forêt, faites une promenade en bateau, faites-le regarder les étoiles, apprendre le nom des oiseaux, reconnaître les champs, des choses magnifiques qui vont l'inspirer vraiment.
Mais c'est intéressant, vous parlez beaucoup de nature, mais vous ne parlez pas de bouddhisme. Vous ne diriez pas, vous ne conseillerez pas à un jeune aujourd'hui d'étudier le
bouddhisme.
Le bouddhisme,
ce n'est pas prosélytisme, c'est plutôt gênant a priori, mais si le bouddhisme est présent, il est disponible comme un pique-nique offert à tout le monde. Et effectivement, le bouddhisme dit que savoir se contenter, je vous ai dit, c'est comme d'avoir un trésor dans le creux de sa main, donc c'est une vraie vertu, mais ce n'est pas une vertu de privation, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est une vertu de liberté.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël, sur France Inter.
La sobriété heureuse, c'est bon pour les pauvres, me disait Manon tout à l'heure en commandant une quatrième paire de Santiago mexicaines en piton fourré, tout en envoyant un émoji doigt d'honneur à son conseiller BNP. J'ai conscience, Mathieu Ricard, que Manon donne une bien piètre image de notre émission, mais sachez qu'en régie, il y a Ghislain Fontana, notre réalisateur décroissant, qui lui est un fervent partisan de la sobriété heureuse. Certes, il est parti cet été en Australie en business, mais en écoutant les interviews de Pierre Rabhi, et avec au pied ses fidèles Birk, bénites à la semence de Raël. Même s'il n'arrive pas à la cheville. Il n'arrive pas à la cheville de ces champions de la sobriété heureuse dont nous allons maintenant parler avec un quiz spécial minimaliste de l'extrême, Quentin. Et pour une fois, on démarre en France.
Il y a des thèmes maintenant.
On y est si bien. Je vous présente Pierre Roubin. Ce Pierre de trois enfants, diplômé en philosophie et travaillant la promotion du livre français à l'étranger, va brusquement changer de vie après avoir été diagnostiqué d'un cancer. La petite musique rieuse, du coup, ne fonctionne pas trop. À 43 ans, que va-t-il soudain décider ? De ne jamais se déplacer à plus de 43 km de son domicile, de voyager dans 43 pays différents en un an sans jamais prendre l'avion, ou de ne vivre qu'avec 43 objets personnels.
B.
A.
Le C est très joli aussi, mais je vais dire...
C'est très joli.
C'est mignon, mais je vais dire B quand même. Ah bon, alors.
Oh oui, bonne réponse, Manon. Oui, j'aime vous faire gagner. Pierre Roubin ne vit plus qu'avec 43 objets essentiels, 43 objets impensables pour Cyril, qui pour sortir de chez lui doit prendre à minima sa ceinture lombaire, son inhalateur, son tricot de peau YouTube, son pins les jeunes avec Chirac et sa carte d'abonné au salon de massage Tenten. Ça fait déjà 6 objets. Vivre avec seulement 43 objets, ça semble vraiment inatteignable pour le commun des mortels. Dans son dressing, Manon a déjà 43 paires de Santiago. D'après vous, le ou lequel des objets suivants ne figure pas dans la liste de Pierre Roubin?
C'est pas le plus d'objets qu'elle a dans.
Non, allez, je
une paire de chaussettes de contention. Une fouta.
Quoi? C'est quoi la question?
Je vous demande le ou les objets qui ne sont pas dans la liste des 43 objets essentiels de Pierre Roubin.
Parfum, fouta.
Paire de chaussettes de contention.
Parfum. Non, parfum, c'est le C.
Oui.
Et voilà, C, réponse C.
Mais de toute façon, vous n'avez pas la bonne réponse, c'était les trois. Ils y sont tous dans sa liste à Pierre. Comme quoi, on peut être minimaliste et aimer son petit confort. On aura au passage une pensée pour Pierre Courade, qui cet été a testé la sobriété ennuyeuse en renonçant au chemsex lors d'un mois entier au Cap-Vert. Et maintenant, direction les États-Unis.
Je le vois en régie.
Il est
sous la table.
Le pays de la main invisible et aussi maintenant, grâce à Trump, du cerveau invisible. Puisque je vous rappelle que là-bas, le doliprane provoque l'autisme. On a appris ça avant-hier. Nous sommes donc aux États-Unis, mère patrie de la surconsommation, où pourtant quelques individus résistent encore et toujours aux sirènes du marketing, voire de la modernité. Je vous présente Daniel Suelo, un habitant de l'Utah, qui a pris en l'an 2000 une décision absolument incompréhensible et je dirais même choquante pour les citoyens du monde que nous sommes. Daniel a tout simplement décidé de ne plus se doucher, de ne plus avoir d'identité ou de ne plus toucher à la thune.
Les trois.
B et C.
Bonne réponse de Quentin, lui. B et C, même si la A est assez probable aussi, c'est en sachant qu'il vit dans une grotte depuis 25 ans. Contrairement à vous qui m'en réclamez toujours plus, alors vous savez bien que lorsqu'on travaille sur le service public, on le fait d'abord par conviction, Daniel a totalement renoncé à l'argent.
On en a pas parlé, Mathieu.
Quentin, redressez-vous et on n'en reparlera pas d'ici la fin de saison.
On a déjà signé.
Ça existe. Daniel va plus loin, même le troc, il n'en veut pas. Je cite, j'ai fait le choix de ne pas faire de troc avec d'autres individus dans ce monde parce que je préfère faire du commerce avec l'univers, Dieu, si vous préférez, à la manière des animaux sauvages. Quel est le degré de parenté entre ce Daniel et Ghislain, notre réalisateur, certainement des cousins germains. Mais à ce stade du quiz, une question se pose, et les femmes dans tout ça? Eh bien, je vous présente Bea Johnson, a.k.a. Echo Queen Bee sur les réseaux. Bea, comme son nom l'indique, est une Française qui s'est installée aux États-Unis et qui a d'abord embrassé pleinement le American Way of Life. Gros 4x4, grosse maison, gros barbecue. Et puis un jour, le choc, la prise de conscience. Alors qu'elle assiste à un concert de U2 à la Sphère de Las Vegas, elle est confrontée à une vision d'horreur qui résume à elle seule l'envers du rêve américain. Un homme, la cinquantaine grisonnante, la barbe d'Hagrid dans Harry Potter, est visiblement... Harry Potter, c'est la version X. Est visiblement fan de U2 puisqu'il porte un t-shirt discothèque. Ronfle bruyamment à côté d'elle. Dans sa main, une pinte de Budweiser presque vide. Dans sa barbe, les restes d'une dizaine de hot dogs qui, reconstitués, pourraient faire tourner une soupe populaire de l'Armée du Salut pendant une semaine. Devant ce spectacle, Béa se dit « Stop, je ne peux plus cautionner cette société du toujours plus, je vais changer de vie et réduire au maximum mes déchets. » Elle va faire la méthode des 5 R, c'est ce qu'elle prône sur son compte Instagram. Refuse, refuser ce dont on n'a pas besoin. Reduce, réduire. Reuse, réutiliser. Recycle et rot, composter. Selon vous, Béa, son compagnon et les deux enfants, qui produisaient 250 litres de déchets par semaine, ne produisent plus désormais que 250 litres de déchets par an, 25 litres par an ou un seul litre de déchets par an?
B.
Ben non. Ils ont transformé sur l'année A.
250, je dirais que c'est la réponse du bon sens.
Oui.
Eh bien, c'était la réponse C. C'était la réponse C.
Seulement un litre de déchets par an.
C'est incroyable. Alors que la poubelle de mon bureau en atteste, j'en produis à peu près 20 litres par jour.
Ah oui, ça.
Mais comme cette poubelle est aussi désormais la maison de Madeleine, la petite souris devenue la mascotte de notre open space, je n'ose plus y toucher. Bref,
20 litres,
allez
vous,
voir.
Vous urinez dans votre poubelle?
Je vous en prie, Quentin. Ne salissez pas tout, si j'ose dire. Allez voir le compte Insta de Béa et sa méthode des 5 R. C'est un peu exigeant, mais comme le dit le tatouage gravé dans le dos de Cyril à côté de la croix de Lorraine, no pain. No gain. Victoire de Manon Mariani.
Ah bon?
Retour.
Oui, sans marquer de points, c'est bien.
Ouais.
Sympa.
Vivre mieux avec moi. Mathieu Ricard est toujours avec nous pour nous expliquer ce qu'est la sobriété heureuse. Cette sobriété heureuse, c'est une réponse aussi au dérèglement climatique, en même temps aux injonctions culpabilisantes qu'on peut nous faire pour sauver la planète. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, Mathieu Ricard, qu'on est aujourd'hui quand même tiraillé, alors peut-être pas vous dans votre ermitage, mais nous, dans nos sociétés, par des injonctions complètement contradictoires aujourd'hui?
Oui, c'est sûr que les scientifiques qui s'occupent de l'environnement, moi j'en connais un certain nombre, il faut dire qu'ils sont assez déprimés, parce qu'on sait ce qu'il faut faire, mais le problème c'est que les chefs d'État ne sont pas prêts à mettre ça en action, parce que ça serait très impopulaire. Donc l'idéal, ça serait des chefs d'État non rééligibles, qui soient suffisamment courageux pour prendre les mesures nécessaires, parce qu'on a très peu de temps, malheureusement. Donc c'est vrai qu'on se dit, moi je me rappelle, Yann Arthus-Bertrand qui disait « il est trop tard pour être pessimiste parce qu'il faut agir », et maintenant, il dit malheureusement, il est aussi pessimiste, enfin les scientifiques le sont en général. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour minimiser les souffrances et essayer de pas que ça soit une trop grande catastrophe? Je ne sais rien, mais c'est vrai que cette tiédeur des gouvernements, il faudrait qu'ils se décident à faire quelque chose, et toutes les COP n'étant pas contraignantes, les décisions non contraignantes, ça ne fonctionne pas.
Ce qu'on peut faire, et vous le faites vous, c'est sortir un livre de photos magnifique que vous avez prise partout dans le monde, et c'est vrai que l'ouvrage est très beau. C'est cette beauté du monde qui doit émouvoir?
Alors, c'est une façon de faire pour un photographe, parce que si on est émerveillé par la beauté du monde, et aussi des êtres humains, eh bien, quand on est émerveillé par quelque chose, on ne va pas le détruire, on le respecte. Ouais. Donc on est concerné par son sort. Donc du coup, on est prêt à agir. Donc c'est une manière positive, constructive, parce qu'il y a tellement de mauvaises nouvelles venant de nos amis scientifiques qui sont justifiées. Donc il faut quand même donner une sorte d'espoir.
Manon.
Parmi les photos, il y a des paysages magnifiques du Népal d'où vous revenez et que vous connaissez très bien. Alors le Népal était dans l'actualité ces derniers jours. De violentes manifestations ont renversé le pouvoir. Elles ont fait aussi 70 morts. À l'origine 110.
Oui.
À l'origine de ces émeutes, la décision du gouvernement népalais d'interdire les réseaux sociaux. Est-ce que vous comprenez cette flambée de violence?
Alors, c'est pas tout à fait ça. C'est pas que les gens ont pété les plombs parce qu'on leur enlevait TikTok. C'est parce que il y avait sur les réseaux sociaux des fils de riches, il y en a quelques-uns au Népal, qui s'affichaient avec 35 sacs Vuitton, des machins de luxe, etc. Et donc, il y a eu une révolte des jeunes qui ont dit, ben nous, c'est avec l'argent qu'on nous prend pour les impôts que ces jeunes vont faire la fête à New York et à Londres. Et donc, ils ont fait toute une campagne sur les réseaux sociaux contre cela. Et c'est en fait les enfants des riches qui ont demandé à leurs parents ministres et oncles ministres
d'interdire
les réseaux sociaux. Donc, ce n'était pas parce qu'ils étaient privés de leur Facebook favori, c'était parce que c'était, leur révolte était tout à fait justifiée et on essayait de la museler.
Pour terminer, Mathieu Ricard, quel message vous souhaitez diffuser ? Vous êtes de passage en France. Je rappelle que vous rencontrer au Grand Rex vendredi prochain, le 3 octobre. Quel message vous souhaitez donner aux Français qui ont l'impression, parfois à juste titre peut-être, que tout va mal chez nous et partout dans le monde ? Comment on fait pour rester optimiste ? C'est un peu le cœur de cette émission, dans ce monde qui, objectivement, va mal.
Je vais vous donner un exemple qui n'est pas récent, mais c'était au moment où l'Inde avait bloqué un peu les produits pour arriver au Népal. Vous aviez le matin 1 kilomètre de queue pour des femmes qui faisaient la queue pour avoir 1 litre de kérosène pour faire la cuisine pour leurs enfants. Un mois plus tard, je me suis retrouvé à New York. Il y avait une queue de 2 kilomètres de long qui ne bougeait pas. Ça aurait pu être à Paris. Et j'ai demandé finalement, qu'est-ce que vous attendez ? Dans 2 heures, ils vont ouvrir une boutique et on aura des foulards de soie à 700 $ bradés à 300. Et je venais du Népal et j'ai dit, là quand même. C'est là où on voit la différence. Donc, faut pas non plus trop se plaindre quand on peut soigner gratuitement dans les hôpitaux. Là-bas, c'est pas ça. Si vous mourrez et que vous avez besoin d'un ventilateur, vous ne l'avez pas si vous n'avez pas d'argent. On meurt si on n'a pas les moyens pour se soigner. C'est quand même formidable qu'ici, on monte une petite carte verte et vous êtes soigné.
C'est vrai, ça, on l'oublie quand on
est... Il faut quand même se réjouir des bonnes choses, même s'il y a bien sûr des gens dans une extrême difficulté. C'est ce qu'on appelle le quart-monde, la pauvreté au sein de la richesse. On doit s'en occuper, bien sûr.
Vous écoutez France Inter et je ne peux pas vous donner l'heure, j'ai dû donner ma montre à Cyril pour avoir du dessert.
Il est content.
La pièce jointe, je suis toujours content, moi vous savez, je souris à la vie, la pièce jointe de Manon Marianne.
Une figure spirituelle aujourd'hui, le Dalai Lama. Il est né en 1935 dans un village du Tibet, c'est à 2 ans qu'il est reconnu comme la réincarnation du 13e Dalai Lama, et c'est à ce moment-là qu'il devient Tenzin Gyatso, le 14e de la lignée. Très vite, il devient à la fois une figure religieuse et politique, chef spirituel et temporel du bouddhisme tibétain, mais aussi dirigeant du Tibet à partir de 1950. 9 ans plus tard, la répression de la révolte tibétaine par Pékin le pousse à l'exil. Il s'installe en Inde où il fonde le gouvernement tibétain en exil. Depuis, il n'a jamais pu retourner dans son pays, mais il reste la voix la plus connue à travers le monde pour défendre la cause tibétaine, l'autonomie culturelle et la liberté religieuse. Et puis surtout, le Dalai Lama s'est aussi imposé comme une icône mondiale de la paix. Il a reçu le prix Nobel en 1989 pour sa lutte non violente en faveur du peuple tibétain et pour son engagement à promouvoir la paix dans le monde, le dialogue interreligieux et la compréhension entre les peuples. Aujourd'hui, à l'approche de ses 90 ans, Tenzin Gyatso prépare sa succession. Dans son livre « Une voix pour ceux qui n'en ont pas », il écrit noir sur blanc que son successeur naîtra dans le monde libre, c'est-à-dire hors de Chine, afin d'échapper au contrôle de Pékin. Une manière de contrer les autorités chinoises qui ont déjà annoncé qu'elles comptaient désigner elles-mêmes leur propre Dalai Lama. Tout indique donc qu'il y aura 2 figures concurrente. La bataille autour de la réincarnation du Dalai Lama dépasse donc aujourd'hui la religion. On est sur un véritable enjeu géopolitique. Qui, du peuple tibétain en exil ou de Pékin, pourra imposer sa vérité au monde ? Derrière la robe safran, l'enjeu est celui d'un héritage spirituel millénaire face à une dictature mondiale déterminée à contrôler jusqu'au sacré.
Merci Manon. Mathieu Ricard, puisque vous êtes là, je vous pose une question. J'avais un tout petit peu dans ma jeunesse étudié le bouddhisme et j'ai jamais compris pourquoi le Dalai Lama, aussi formidable soit-il en tant que personne, pourquoi il y avait une personne qui était désignée comme la réincarnation du Bouddha, alors que les paroles du Bouddha, c'est que n'importe qui peut être Bouddha.
Il n'a jamais été compris comme la réincarnation du Bouddha.
Ah, d'accord.
Le système de réincarnation au Tibet a commencé au XIVe siècle. Le Dalai Lama a dit, ça n'a pas d'importance si ça s'arrête. Si c'est utile à la société, très bien. Sinon, il a dit, si ça s'arrête, peut-être si je suis le dernier, je ne serai peut-être pas le pire.
Ah ok, d'accord, c'est ce qu'il dit.
Donc, ça n'a rien à voir avec le Bouddha. Le Bouddha, il n'y a aucune réincarnation du Bouddha connue.
Ah ok, oui, parce que ça me semblait contraire à la pensée même bouddhiste.
Non, pas du tout.
Très bien, alors je comprends mieux effectivement. Des nouvelles du Dalai Lama,
Il a 90 ans, il a eu 90 ans, il va bien, mais il a un repos bien mérité après avoir sillonné le globe, donc il se consacre à sa pratique spirituelle, il enseigne un peu le bouddhisme, et voilà.
C'est la rencontre la plus importante de votre vie ?
Oui, c'était mes premiers maîtres spirituels, et ça a été aussi un de mes grands maîtres spirituels, bien sûr. J'ai énormément inspiré par sa présence.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Peut-on être heureux sans acheter constamment de nouvelles choses ? Oui, répond clairement Pierre Courade, le dernier Parisien à porter des suites à messages passés de mode depuis 2011.
C'est le cas aujourd'hui.
Ah ouais, vraiment.
Évidemment.
Oui, specialty
oui,
aujourd'hui.
Même, ça veut rien dire.
Parce que c'est, mais...
Oui, non, mais nous non plus. Personne ne le sait. Personne ne le sait. Pierre, chaque après-midi, fagoté comme quelqu'un qui, évidemment, qui s'épanouit vraiment dans la sobriété, vous nous résumez tout ce qu'on s'est dit dans l'émission en une minute chrono.
Et aujourd'hui, on a parlé de sobriété avec un Ricard. Bon, la sobriété heureuse avec Mathieu Ricard, l'interprète du Dalai Lama en français. Et lui-même adepte de cette philosophie de vie, une notion qui consiste à se dépouiller du superflu, à revenir à l'essentiel pour se reconnecter avec le réel. Quentin croit faire la même chose avec ses reventes de fringues sur Vinted, alors que la sobriété heureuse, c'est totalement l'inverse. C'est arrêter de consommer à tout va, porter des toges safran ou des suites à message. Mathieu Ricard nous a expliqué que la consommation n'apportait rien de satisfaisant. Mathieu Ricard nous a aussi dit qu'on est réellement heureux car se détacher de biens matériels, ce n'est pas pour autant se priver. C'est simplifié. Il nous a aussi répété son mantra « J'ai besoin de rien », une formule qu'il nous a dit réciter régulièrement dans son ermitage face aux montagnes de l'Himalaya. Mais tout le monde n'a pas la chance de méditer au pied de l'Everest ou des Pyrénées. Mais tout le monde peut revoir ce chef-d'œuvre où il est chanté « Il en faut peu pour être heureux » ou tout simplement au quotidien faire preuve d'altruisme.
Merci Pierre. L'altruisme, un mot qui sonne bizarrement dans votre bouche. Mathieu Ricard, je rappelle votre livre « Lumière » qui est disponible. Et puis on peut vous rencontrer pour les chanceux qui sont à Paris les 3 octobre prochains au Grand Rex, c'est ça ?
Oui, tout à fait.
Juste à côté de chez moi, c'est parfait.
Jour de mon anniversaire.
Et en plus.
Oh là là,
c'est pas un hasard, ça.
Les planètes s'alignent. Ouais. Le moment est douloureux, mais il est nécessaire car la bienveillance bouddhiste n'a pas sa place dans Zoom Zoom Zen. François Rollin, il est temps de nous dire sans détour ce que vous avez pensé de nos émissions cette semaine.
Mathieu, mon frère, Mathieu, mon ami. Vous vous souvenez, bien sûr, que lorsque vous m'avez proposé de vous rejoindre sur cette antenne pour dresser un bilan hebdomadaire de votre travail, je vous ai dit ma joie, mais je vous ai dit aussi qu'il fallait vous attendre de ma part à une exigence forte, accompagnée d'une subjectivité décomplexée, pouvant tourner à la subjectivité hargneuse. C'est cette subjectivité un peu brutale qui préside à mon regard sur la semaine écoulée. Lundi, vous avez parlé de l'IA générative. Cette question ne m'intéresse pas. Je lui aurais préféré un conseil pour cuire au courbouillon les haricots tarbais avant de les laisser confire dans la graisse de canard aux côtés d'une saucisse de Toulouse au couteau de chez la mère Paulette, charcutière aux 16 rue Armand-Feuler à Blagnac. Mardi, Strava. C'est typiquement le genre de phénomène dont je me fiche complètement. Je me fusse en revanche régalé avec un panorama historique bien documenté sur l'histoire de la mayonnaise, initialement sauce mahonnaise, parce qu'inventée à Port-Maron, capitale de Minorque, au Baléares. Vous y eussiez opportunément mentionné que la mayonnaise se faisait initialement sans moutarde. Juste un jaune d'œuf, une cuillère à soupe de vinaigre, sel, poivre et de l'huile d'arachide. La moutarde a été ajoutée par la suite pour atténuer la sensation culpabilisante de boire un grand verre d'huile dans lequel baigne un misérable jaune d'œuf. Mercredi, le trash streaming, un intitulé en anglais sur une antenne française, il n'en faut pas moins pour me pousser à couper instantanément la radio. J'eusse grandement préféré une leçon d'empélographie, énumérant les prestigieux cépages qui font les grands vins de France, si agréables à boire, seul ou en famille, et j'eusse dégusté comme une poésie la liste des cépages aux noms si pittoresques, le Trousseau, l'Arvine, le Savagnin, le Picpoul, le Bourboulinque, le Colombard, le Mourvèdre, le Poulsard, l'Humagne, la Syrah, la Marsanne et la Roussanne, pour n'en citer que 12. Jeudi, corvée du sexe, une problématique qui, je vous le dis sans détour, m'en touche une sans faire bouger l'autre. Vous eussiez été mieux inspiré de rafraîchir les mémoires des auditeurs sur les mille et une façons de préparer les crustacés, de redire la supériorité du homard bleu de Bretagne sur l'insipide homard canadien du Pacifique, et de rappeler que, paradoxalement, la technique la moins douloureuse pour exécuter les homards consiste à planter vivement un couteau bien aiguisé sur le haut du coffre et à séparer la bête en deux dans le sens de la longueur en moins de 3 secondes. C'est infiniment plus propre que l'eau bouillante dans laquelle l'animal agonise pendant d'interminables minutes. Vendredi, sobriété heureuse, l'oxymore le plus détestable depuis l'invention de l'oxymore par Pierre Corneille et son obscure clarté qui tombe des étoiles. Vous vous fussiez pourtant grandi en énonçant, comme l'avant-veille, pour les cépages, les différences notables entre les quatre espèces de salsifis cultivées en France, à savoir le noir de Russie, le mammouth sandwich Island, le blanc amélioré et le géant de Russie. Cinq émissions, cinq sujets lamentables. Ben oui, mais alors, de quoi il fallait parler ? Comment ça, de quoi il fallait parler ? Je viens de vous le dire ! Vous dormiez ou quoi ?
Pas du tout, mais j'ai noté, on fera une émission sur les cépages dès la semaine prochaine, moi ça me passionne. Hein. Au moins sur les 12 cépages évoqués ici.
La semaine prochaine, donc.
Oui, oui, on change le programme et on fait les cépages.
Oui,
merci quand même François Rollin, et essayez de prendre de la graine un peu de Mathieu Ricard, côté bienveillance, ça vous fera du bien. On vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom Zen. Merci beaucoup Mathieu Ricard de nous avoir initié aux vertus de la sobriété heureuse. Je rappelle votre livre de photos Lumière qui vient de paraître aux éditions Alaric, des photos qui sont vraiment magnifiques, expo du 10 octobre au 15 novembre à la galerie Françoise Libinec à Paris, et puis cette conférence au Grand Rex vendredi prochain pour vous rencontrer en chair et en os. Merci encore Mathieu Ricard. Zoom Zoom Zen.